Connaissez-vous la réponse à la question suivante? Comment pouvons-nous être libérés du fardeau de notre culpabilité face au péché? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui pourra vous transformer aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, que vous soyez croyant ou non, j'aimerais vous inviter à écouter l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui en réponse à nos questions. Ça pourrait être un nouveau départ pour vous. Je vous assure que ce message de la Bible ne vous laissera pas indifférent. Voici premièrement nos questions. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on surprend une personne en faute? Est-ce que les croyants sont à l'abri du péché? Est-ce qu'on peut partager tous les fardeaux de nos frères et sœurs en Jésus-Christ? Est-ce que celui qui reprend un frère en la foi est supérieur à celui-ci? Est-ce que c'est vrai qu'on récolte ce qu'on sème? Qu'est-ce qui nous révèle notre péché? Comment pouvons-nous être libérés du fardeau de notre culpabilité face au péché? Restez avec nous, vous ne serez pas déçus de l'enseignement que le Seigneur va nous donner aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, c'est bon de goûter à ta présence. Merci d'être avec nous. Merci pour le bon enseignement que tu nous donnes à chaque émission. Merci pour ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, grave ces paroles dans nos cœurs. On a besoin de toi. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu le fruit de l'Esprit. Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. Nous devons laisser l'Esprit produire ce fruit en nous. Nous n'avons aucune capacité à produire ce fruit. Le fruit principal est l'amour, et tous les autres items de la liste découlent de cet amour. L'amour cherche toujours à faire quelque chose envers les autres. Nous marchons selon l'Esprit en s'appuyant sur celui-ci, et cela s'apprend comme un petit enfant qui apprend à marcher. Le dernier chapitre de l'Épître aux Galates nous amène à la troisième étape de cette section pratique sur la sanctification de l'Esprit. Nous avons vu que se replacer sous le joug de la loi après avoir été sauvé par la foi, c'est se retirer de la grâce. Nous avons vu qu'être sauvé par la foi et marcher selon l'Esprit produit le fruit de l'Esprit. Maintenant, nous allons voir comment le fruit de l'Esprit se manifeste dans une vie. Que devons-nous faire avec une personne surprise en faute? Chers amis, débutons notre lecture de Galates chapitre 6, verset 1er. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Qui est l'homme mentionné dans ce verset? En fait, c'est un terme qui désigne un être humain, un homme ou une femme. Dans ce contexte, le mot « faute » traduit le mot grec « paraptoma », ce qui signifie « trébucher ». Il ne réfère pas uniquement à un péché grave, mais pourrait aussi référer à une grosse bévue. Que devons-nous faire avec une personne surprise en faute? Bien, certains super-spirituels et plusieurs pensent être très spirituels voient dans ce verset l'autorisation de frapper le fautif sur la tête avec une grosse Bible parce qu'il a fait quelque chose de mal. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas nécessairement restaurer la personne fautive. Ils préfèrent la critiquer et la condamner plutôt que de l'aider. Cependant, le croyant ne perd pas son salut lorsqu'il trébuche. Si un chrétien pêche, un autre chrétien spirituel doit le restaurer dans un esprit de douceur. En exhortant son frère ou sa sœur, il doit manifester qu'il a du fruit, qu'il porte le fruit de l'Esprit. Le Seigneur Jésus nous accompagne au cours de notre pèlerinage terrestre, et lorsque nous trébuchons, il ne trébuche pas avec nous. C'est un réconfort de savoir que celui qui marche avec moi ne tombe pas avec moi. il n'est pas affligé. Il est à mes côtés et il me relève et me remet sur le droit chemin. » Chers amis, nous devons aider un frère dans un esprit de douceur. Le mot traduit « redresser » dans ce verset signifie « replacer un os cassé ». Si un frère tombe et se casse un os de la jambe, allez-vous le laisser là? Dieu dit, « Vous qui êtes spirituel, replacez l'os cassé. Remettez cet homme sur ses pieds. » Ce doit être fait dans un esprit de douceur. Il est déjà blessé. Un alcoolique qui s'était converti était devenu le pasteur d'une grande église. Il passa par une période de tension, de pression et de tentation. Un soir, il s'enivra. Il en avait tellement honte que le lendemain, il a convoqué le conseil de l'église pour remettre sa démission. Il dit aux anciens et aux diacres qu'il démissionnait. Étonnés, ils demandèrent pourquoi et leur dit simplement « Je me suis enivré hier soir. Un pasteur ne devrait pas s'enivrer, donc je démissionne. » Il était évident qu'il avait honte d'avoir fait cela. Et savez-vous comment ont réagi les membres du conseil? Ils ont mis leurs bras autour de lui et lui ont dit « Prions ensemble. » Ils refusèrent sa démission. Un homme qui était assis dans l'auditoire du pasteur le dimanche suivant dit « C'est le meilleur sermon que je n'ai jamais entendu. » Ces hommes étaient des chirurgiens. Ils ont replacé l'os brisé. Ils ont restauré leur pasteur. Dans certaines églises, les gens l'auraient retiré du ministère, mais ces chrétiens relevèrent leur pasteur et Dieu l'utilisa de façon encore plus merveilleuse par la suite. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Notez que la restauration doit se faire dans un esprit de douceur. Un homme spirituel porte le fruit de l'esprit. Le revoici ce fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La personne doit être redressée avec douceur. Nous ne sommes pas à l'abri de tomber. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri de ne pas tomber dans le même péché que celui que vous redressez. Vous pourriez commettre le même péché un jour, donc allez-y avec douceur. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Certains voient une contradiction entre ce verset et le verset 5. Nous lisons au verset 5, « Car chacun portera son propre fardeau. » Un texte nous dit de partager nos fardeaux, tandis que l'autre de les porter nous-mêmes. En fait, il n'y a pas de contradiction. Certains fardeaux se partagent, donc nous sommes appelés à les porter, tandis que d'autres se portent seuls. 11 mots grecs peuvent être traduits par notre mot « fardeau ». Donc, il y a différents types de fardeaux. Certains fardeaux peuvent être partagés, d'autres, nous n'avons pas le choix que de les porter soi-même. C'est une réponse simple, mais satisfaisante à l'objection. Tous les êtres humains ont une chose en commun. Ils doivent porter des fardeaux. Nous ne sommes pas tous riches, mais nous portons tous des fardeaux. Nous ne sommes pas tous en santé, mais nous avons tous des fardeaux. Nous ne sommes pas tous beaux, mais nous portons tous des fardeaux. Mais nous ne portons pas tous le même fardeau. En fait, il y a différents types de fardeaux. Nous pouvons diviser les fardeaux en deux types. Ceux qui se partagent et ceux qui ne se partagent pas. Nous devons forcément porter seul un fardeau qui ne se partage pas. Au verset 2, le mot grec pour fardeau est baros, ce qui signifie un fardeau lourd. Le Seigneur a utilisé ce mot. Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Matthieu chapitre 20 verset 12. Le mot traduit fatigue dans ce verset est le mot grec baros, utilisé pour fardeau. Nous trouvons aussi le mot dans le rapport au sujet du premier concile à Jérusalem. « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. » Actes chapitre 15, verset 28. C'est le mot baros qui fut traduit charge. Un fardeau porté à deux devient un demi-fardeau. Certains fardeaux peuvent être partagés. Un fardeau pourrait être une faute, une infirmité, une faiblesse, une ignorance, de la pression, une tension ou un chagrin. Poursuivons notre lecture de Galates chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Dieu travaille dans notre vie et il travaille dans celle de nos frères. Lorsque nous exhortons quelqu'un, pensons que nous aussi nous n'avons pas atteint la perfection. Dieu travaille dans notre vie et il travaille dans celle des autres. Donc, nous avons l'espérance que notre frère va grandir spirituellement malgré qu'il trébuche lors de son parcours. Nous ne servons pas pour notre gloire personnelle. Nous servons le Seigneur Jésus-Christ, un maître doux et humble de cœur, un bon maître. C'est autour de lui que nous nous réunissons. Il nous demande de nous aimer les uns les autres, de se pardonner réciproquement, de nous entraider. Je ne dois pas penser que je suis supérieur aux autres. Lorsque j'exhorte des frères ou des sœurs dans la foi, je ne suis pas le riche propriétaire dans la belle demeure sur le ranch, mais je suis une brebis parmi des brebis. Mes vêtements portent l'odeur de la bergerie. Verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Avant d'examiner les autres, il faut s'examiner. Oui, avant d'exhorter les autres, je ne dois pas négliger de m'examiner moi-même. Je ne dois pas me croire supérieur aux autres. De plus, je dois prendre mes responsabilités en ce qui concerne mon propre fardeau. J'ai peut-être besoin d'aide pour le porter, mais je dois faire ma part. Je ne dois pas faire tout porter par les autres. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Ici, je dois préciser que dans certaines versions, on peut y lire le mot « charge ». Dans ce verset, le mot grec traduit « fardeau » est « forcion », et il signifie un fardeau qui doit être porté soi-même. C'est le mot qui est employé pour décrire la cargaison d'un navire. Ce mot est aussi employé pour l'enfant que porte une femme enceinte. Seule la mère peut porter ce fardeau. Je dois porter ma part de fardeau. Tous doivent porter leur propre sac à dos. À chaque personne, sa tâche, sa responsabilité, son fardeau. Personne ne peut souffrir à votre place. D'une certaine façon, chaque vie est isolée et séparée des autres. Voici quelques exemples de fardeaux qui ne peuvent être partagés. Premièrement, il y a la souffrance. Personne ne peut souffrir à votre place. Vous devrez faire face seul à certains problèmes. Vous serez malade et personne d'autre ne pourra l'être à votre place. Imaginez que votre enfant soit fiévreux au point que vous devez l'amener à l'urgence. Vous aimeriez peut-être pouvoir prendre sur vous sa maladie, mais cela est impossible. L'enfant doit porter son fardeau et vous ne pouvez pas le faire pour lui. Vous ne pouvez pas partager la souffrance. L'angoisse mentale est un autre fardeau que vous ne pouvez pas partager. De nombreuses personnes sont très déçues. Elles sont amères à cause d'une très grande déception. Vous devez porter seul ce genre de souffrance. Vous ne pouvez pas partager avec qui que ce soit le fardeau de la mort. Nous y passerons tous. Lorsque ce sera l'heure de votre mort, vous irez seul dans l'au-delà. Nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ. Maintenant, voici un troisième exemple de fardeau que nous ne pouvons pas partager. Nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ pour être jugés selon le bien et le mal que nous aurons fait comme croyants, et ce, afin d'y recevoir des récompenses. Le croyant ne sera jamais jugé en vue d'être condamné à l'enfer. Le Seigneur Jésus a pris sur lui sa condamnation et il est mort à sa place. L'incroyant sera condamné à la perdition lors du jugement du grand trône blanc, que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Par contre, le croyant paraîtra devant Dieu pour recevoir des récompenses pour son service. car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Citation de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Tout ce que le croyant aura fait lorsqu'il était sur la terre sera examiné. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Citation de Romains, chapitre 14, versets 11 et 12. Chers amis, nous récoltons ce que nous semons. Ensuite, Paul émet un principe qui s'applique à tous, même s'il le donne spécifiquement aux croyants. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates, chapitre 6, verset 7. Ce principe s'applique dans la nature. Si tu sèmes du blé, tu récolteras du blé. Si tu sèmes des tomates, tu récolteras des tomates. Les chrétiens récoltent ce qu'ils sèment. Nos péchés furent réglés par Jésus-Christ lorsqu'il est allé à la croix. Votre ancienne dette est payée entièrement. Mais qu'en est-il de votre nouveau compte depuis que vous êtes croyant et que vous avez accepté le Seigneur Jésus? Avez-vous du péché dans votre vie? L'avez-vous confessé? L'avez-vous abandonné? Nous devons tous comparaître au tribunal de Christ. Écoutez ce texte de 1 Jean, chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La lumière, qui est la parole de Dieu, nous révèle notre péché. Quelqu'un peut dire, « Je suis chrétien, je ne pêche pas. » Non. Alors tu n'es pas dans la lumière. Lorsque tu t'avanceras dans la lumière, tu découvriras que tu es encore pécheur. La lumière, qui est la parole de Dieu, nous révèle notre péché. Voici un exemple. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques chapitre 4, verset 17. Je ne crois pas que nous puissions honnêtement affirmer que nous avons toujours fait ce qui est bien, sans jamais négliger quoi que ce soit. Notre marche d'enfant de Dieu est un fardeau que nous portons tous, et un jour, nous devrons tous nous présenter devant Dieu afin qu'il nous examine. Nous ne pouvons ni partager, ni porter le fardeau de notre péché. Il y a un autre type de fardeau, un fardeau que vous ne pouvez ni porter, ni partager. Les Écritures parlent de ce fardeau, c'est celui du péché. Paul en parle dans la première partie de l'Épître aux Romains. Dans les psaumes, David dit, « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Psaume 38, verset 5. « Vous ne pouvez pas partager le fardeau de vos péchés. De plus, vous ne pouvez pas porter ce fardeau. » Nous voyons ce profond soupir dans un autre psaume. Le psaume 55, verset 7. Chers amis, avez-vous déjà éprouvé de tels sentiments? Il arrive qu'un médecin nous recommande de partir en vacances, loin de toute responsabilité. L'auteur du psaume ne demande qu'à s'éloigner de tout. Mais vous et moi, ne pouvons pas nous éloigner du fardeau de notre péché. La loi de Dieu est inscrite dans notre conscience. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées, s'accusant ou se défendant tour à tour. Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Les psychologues savent que nous éprouvons tous des sentiments de culpabilité. Cependant, ils ne savent pas comment soulager notre culpabilité. Chers amis, c'est à la croix de Jésus-Christ que nous pouvons être libérés du fardeau de notre culpabilité ou du fardeau de nos péchés. Le psaume 55, verset 23 nous dit, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Le Seigneur Jésus a dit, rapporté par l'évangéliste Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi. vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le repos de nos âmes. Seul Jésus-Christ peut nous soulager du fardeau de notre culpabilité parce qu'il a pris sur lui notre condamnation. Il a payé pour nos péchés. Seul Jésus peut ôter ce fardeau sur nos épaules. Écoutez ce texte du psaume 32. L'auteur, David, nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Le psaume 32, versets 1 à 5. Deux sculptures célèbres illustrent cela. La première est la sculpture d'un captif gaulois mourant dans l'arène à Rome. Il fut capturé, et on en fit un gladiateur. La statue le dépeint saignant à mort dans l'arène. Il cherche de l'aide, du secours, mais il est dans un pays étranger. Personne ne lui vient en aide. Ce gladiateur mourant est une belle image d'une personne sans Jésus-Christ. Seul le Seigneur Jésus peut nous secourir, et c'est pourquoi il est venu dans ce monde. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc, chapitre 19, verset 10. Jésus a aussi dit, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de beaucoup. » Marc, chapitre 10, verset 45. Le Seigneur Jésus a pris sur lui notre condamnation, la peine que nous nous sommes méritée à cause de nos péchés. Au musée Pio Clementino du Vatican, il y a une sculpture appelée Laocoon. Un prêtre de la ville de Troie a vu deux serpents de mer saisir ses deux fils et s'enrouler autour d'eux. Il s'est porté à leur secours seulement pour se trouver dans le même pétrin que ses fils. La statue représente le prêtre et ses deux fils en train de mourir. Ceci illustre le fait que nous ne pouvons rien pour notre péché et notre culpabilité. Le péché nous entraînera à la perdition éternelle. Que faire avec un tel fardeau? Le fardeau de notre péché est beaucoup trop lourd pour que nous puissions le porter. Il y a environ 2000 ans, le Seigneur Jésus a pris sur lui ce fardeau et il l'a porté à la croix pour nous. Aujourd'hui, soit que vous portiez vous-même votre fardeau, soit que vous êtes venu à Jésus-Christ par la foi et qu'il l'a pris sur ses épaules pour vous. Le fardeau ne peut être à deux places à la fois. Soit qu'il soit sur vos épaules ou sur celle du Seigneur Jésus. Pour nous sauver, Dieu a demandé à son Fils de porter les péchés de ceux qui viendraient à lui à la croix. Le Seigneur Jésus fut sans péché, donc il a pu mourir à notre place, n'ayant pas à mourir pour ses propres péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau sans défaut et sans tache que Dieu a désigné pour effacer, expier nos péchés. Êtes-vous allé vers lui pour demander que son œuvre s'accomplisse en vous, c'est-à-dire que vos péchés soient portés par lui? N'ayant aucune force à porter les nôtres, Christ est venu, et par la foi, nous pouvons les lui remettre. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Galates, chapitre 6, les versets 6 à 11.
Oh, merci beaucoup, Régent. C'est à la croix de Jésus-Christ que nous pouvons être libérés du fardeau de notre culpabilité. C'est ce que tu as dit il y a quelques instants. Et je sais que tous les croyants ont expérimenté cette vérité. Avant de connaître Dieu, avant d'avoir une relation intime avec lui, je passais mon temps à me sentir coupable. Et je me sentais incapable de m'éloigner de toutes les actions qui me rendaient si coupable. Et je regardais les autres, et je me demandais s'ils se sentaient comme moi. Par exemple, quand je consommais de la drogue avec des amis, Il arrivait toujours un moment dans la soirée où je me sentais coupable. Et je regardais les autres qui s'amusaient et je me disais, je me demande s'ils se sentent comme moi en ce moment, s'ils se sentent coupables. Aussi, à cette époque-là, j'avais un amant qui était marié à une autre femme. Et encore là, j'avais beau essayer de trouver ça normal, je me disais que je faisais du bien à cet homme, que j'avais le droit d'aimer et d'être aimé moi aussi. Mais au fond de moi-même, il y avait une honte et une culpabilité qui me rongeaient. Quel fardeau! Mon ami, est-ce que tu vis sous un fardeau comme celui que je viens de mentionner? Eh bien, je peux te dire qu'en un seul instant, Dieu m'a enlevé ce fardeau. J'aurais pu essayer de l'enlever moi-même pendant toute ma vie sans jamais réussir. Mais le jour où j'ai réalisé que mon fardeau, c'était mon péché, eh bien, je me suis repenti. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai demandé à Jésus de me sauver, de me libérer, de me donner la vie éternelle. Je savais que je ne méritais pas de passer l'éternité au ciel avec Dieu à cause de mes péchés, mais je voyais enfin que Jésus avait tout payé à la croix et qu'il m'offrait ce cadeau gratuit. Le ciel pour l'éternité au lieu de l'enfer que je méritais. Et comme Réjean l'a mentionné à la fin de son message aujourd'hui, Jésus a pris sur lui la condamnation, la peine qu'on méritait tous pour nos péchés. Dès que j'ai dit « Seigneur, sauve-moi », il l'a fait. Et j'ai immédiatement goûté ce que c'était d'être libéré de ce fardeau de culpabilité qui avait été sur moi pendant tant d'années. Mon ami, Jésus sait que tu écoutes en ce moment. Il sait tout. N'aimerais-tu pas qu'il t'enlève ce fardeau de culpabilité, qu'il pardonne tes péchés, passés et à venir? Je dis bien « à venir » parce que je sais qu'on ne sera jamais parfait ici-bas sur cette terre. Mais Jésus veut te pardonner maintenant. Crois-tu en lui? Crois-tu qu'il est Dieu fait homme et que c'est pour toi qu'il est mort sur la croix? Il a payé ta dette en entier. Et maintenant, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, si tu ouvres la porte de ton cœur, il va entrer chez toi. Il va devenir intime avec toi. Et personne ne pourra t'enlever ce cadeau de la vie éternelle qu'il va te donner. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il a payé ta dette, mais il faut que tu le reçoives, que tu reçoives Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il s'offre à toi en ce moment. Il t'aime d'un amour éternel. Il veut pas te châtier, il veut te donner la vie.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi. Ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, bien c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appel.
Pour nous rejoindre, au téléphone
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.